Donc, la parole est maintenant, dans le cadre de cette deuxième partie du séminaire, à donc Éric Letourneau. Éric est également professeur à l'École des médias et directeur du réseau Hexagram. Je vais te donner la parole pour un temps, c'est un peu... Il est 11h15 passé, on a jusqu'à plus tard 12h30, à toi de voir comment utiliser ce temps, en sachant que ce sera la même pratique que tout à l'heure. Svet aura commentaires et questions, et après la parole sera à la salle. Éric, c'est à toi.
Bon, alors, le point de vue que je vais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment celui de chercheur-créateur de terrain, ou de l'artiste qui est devenu chercheur-créateur parce qu'on lui a accolé un nouveau label lorsqu'il est rentré à l'université. Mais de toute façon, j'ai toujours considéré l'art comme étant une pratique d'abord qui dépasse largement les frontières de ce qu'on appelle art dans l'institution. Et deux, j'ai toujours considéré que c'était un terrain d'expérimentation. Donc, qui dit expérimentation, je ne sais pas ça pour être positiviste, mais je pense quand même qu'il faut être au courant de ce que les autres font ou ont fait. On n'est jamais au courant de tout, mais un peu. Et essayer d'ajouter quelque chose, d'apporter quelque chose à la collectivité. Donc, il y a quelque chose d'éminemment personnel dans l'art. Ce qui m'amène à vous parler donc de la géotransgression en termes beaucoup plus larges. Donc, je me suis dit, que fait la géotransgression? Quelle que soit sa forme, elle peut faire les choses suivantes. D'abord, elle cristallise géographiquement des revendications. Donc, en occupant un espace, on affirme, par communication, on affirme un message particulier en cristallisant géographiquement et physiquement avec de l'embodiment, parce qu'on est un corps individuel et on devient un corps collectif aussi, hein, comme un corps en groupe. Évidemment, ça attire l'attention des médias. C'est toujours des stratégies très habiles pour jouer avec les médias, s'en faire des amis, parfois des ennemis. On l'a bien vu ici lorsque Occupy s'est installé face à la tour de la Bourse et que la couverture de presse était extrêmement défavorable aux occupants de Occupy Montréal. En général, je parle évidemment de la presse grand public, je parle pas de CUTV. Ça génère évidemment des débats au sein du tissu social et ça pose la question de la légalité, qui a le droit d'être où et quand, et qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui devient illégal, où et quand. Donc l'occupation interroge la production institutionnelle d'un espace donné, par extension, sa répercussion dans le monde, parce que cet espace-là symbolise. Et l'occupation ou la géotransgression propose une fonction alternative ou utopique de ces espaces-là. Donc, on recrée ces espaces-là. C'était manifeste dans Occupy Wall Street, où toute une communauté s'était établie avec une bibliothèque publique d'Occupy, avec des cuisines collectives, avec des groupes de discussion sur différents sujets, des groupes féministes, des groupes activistes de gauche, anarchistes, et ces discussions donc, qui se déroulaient. Et toute cette vie, finalement, cette communauté qui se structurait sous l'œil des caméras installées par la NYPD pendant toute cette longue période, ça a duré deux mois, trois et demi. Et ça m'a amené à m'interroger donc, sur le travail entrepris par des chercheurs créateurs sur les sujets de la, enfin, qui toucheraient ou qu'on pourrait aborder sous l'angle de la géotransgression. Alors, ici, ce beau petit PowerPoint qui s'appelle « Seigneur Éric Georges ». J'ai évidemment fait un petit clin d'œil à nos amis de l'international situationniste qui, dans les années 60, s'appelle la psychogéographie. Dans la psychogéographie, il y a un élément de géotransgression parce qu'on dérive, la dérive en fait, qui est une pratique situationniste qui consiste à errer dans la ville, surtout de Paris à cette époque-là, dans toutes sortes de lieux inhabituels. Donc, plus le lieu était inhabituel, le chemin méconnu, plus c'est encouragé d'aller dans cette direction-là. Donc, ce qui encourageait les gens de ce groupe-là à explorer des quartiers de Paris et des lieux qui n'étaient pas nécessairement, a priori, accessibles au public. Il y avait donc des géotransgressions déjà dans ce processus. Et les situationnistes ont appelé psychogéographie l'étude des états et des affaires lié à cette dérive, à ce comportement, quel est l'impact de la production d'espace et de la géographie telle que produite par cet espace
sur les affects des êtres humains. Alors, je passe assez vite sur ça parce que je voulais juste souligner que c'est une autre tradition, la géotransgression, bien avant ça d'ailleurs. Johannes Bader, du mouvement pré-dadaïste, allait dans les églises et sur les chairs montait sans permission pour faire haranguer la foule avec des discours dadaïstes ou pré-dadaïstes. Et ça existe au 19e, mais ce serait trop long dans mon époque pour faire une histoire de la géotransgression. Le projet New Babylon, qui est un projet qui, justement, revendique la légalité de pouvoir circuler librement dans certains espaces où la liberté serait totale. Donc, ces espaces-là seraient des couloirs qui couvriraient des secteurs de villes entières et qui, éventuellement, se relieraient d'une ville à l'autre. On va voir, et dans ces couloirs, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire notre dérive sans avoir à géotransgresser un espace. Évidemment, ce projet n'a jamais vu le jour, mais on va voir une variation de cette proposition dans le travail de Denis Tremblay, le roi de l'Anse Saint-Jean, qui était actif dans les années 90, qu'on va voir à la fin de cette présentation. Je passe assez vite sur New Babylon et sur les graffitis, par contre, de l'international situationniste, qui déjà était précédé par les graffitis du mouvement lettriste, ici au-dessus des Algériens, face à la préfecture de police, après le massacre des Algériens qui manifestaient dans les années 50, où ce type de graffiti ne travaillait jamais, qui est très célèbre. Et évidemment, en 1968, je jouais dans les pavés, on peut pas, c'est difficile de le manquer. Alors, dans les exemples contemporains, il y a la géotransgression de l'habitus, les différents types de géotransgression. Je suis en train d'essayer de monter une espèce de taxinomie, de classification. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, c'est pour ça que ça va être intéressant d'avoir vos retours à ce sujet-là. Donc, il existe une manière de faire de la géotransgression qui n'est pas nécessairement légale. Je ne vais pas piler illégalement sur le terrain du voisin ou je ne vais pas m'infiltrer de l'autre côté des barrières comme on a vu dans l'exercice qu'on a fait à Madrid. Il existe une manière symbolique de le faire, c'est en détournant des usages de territoires dont les usages sont très conventionnés. À ce titre-là, j'ai quand même choisi pas mal d'artistes québécois aujourd'hui parce que je pense que leur travail mérite d'être un peu plus discuté. Jean-Yves Fréchette, qui était professeur à l'époque, a créé à Saint-Ubal, là où il habite, l'agrotexte, qui est un projet réalisé avec la communauté de Saint-Ubal et qui consiste à créer un texte à même les champs labourés. Trois mots, texte, terre, tis, et qui sont visibles, évidemment, des airs. Ça mobilise toute la communauté. Donc, il n'y a pas quelque chose d'éminemment transgressif dans le geste. Mais là, il y a quelque chose de transgressif. C'est peut-être dans la manière de proposer quelque chose qui est radicalement différent de la pratique agricole traditionnelle et surtout la pratique agricole industrielle telle qu'on la connaît aujourd'hui, puisqu'elle est fonctionnelle, elle est supposée être fonctionnelle. Donc, on défonctionnalise l'agriculture pour faire une manœuvre de poésie. Alors, la sculpture agricole et textuelle est réalisé par la Société coopérative agricole de Saint-Ubal, de Port-Neuf. Labourer le poème Textertis, chacune des lettres mesurait 76 mètres, 76 par 91 mètres. C'est donc immense. Et pour le voir, il faut des ballons. Donc tout un système, système qui permet aux citoyens et aux visiteurs d'aller lire le texte du haut des airs avec des ballons. D'une part, il y a des ballons gonflés à l'hélium qui vont être autour des spectateurs qui vont flotter dans les airs, dans des montgolfières. Une cérémonie, le curé de la paroisse est impliqué. Donc, c'est vraiment un élément fédérateur. Ce n'est pas une transgression à proprement parler, mais je l'ai quand même dans la catégorie de transgression de l'habitus. On vit avec certains modes de fonctionnement, certaines perceptions de l'espace, et ce genre de pratique ou de manœuvre artistique vise à déstabiliser la vision, la perception qu'on a de l'espace traditionnellement. Le 10 octobre 1982. Donc, c'est comme du land art poésie concrète.
C'est comme
la je ne sais pas exactement s'ils ont planté quelque chose, ils ont labouré. Alors, je pense ensuite, il y a probablement eu des. C'est pas un projet qui vise à faire fleurir le texte nécessairement. Ben, il y a parce qu'il y a plusieurs. Transgression en termes de réappropriation, d'un territoire, donc un territoire microscopique, celui des Parcs-Mètres, par exemple. Alors, Suzanne Joly, dans Joliette, a proposé cette planète où elle a attaché sur une centaine de Parcs-Mètres l'étiquette pays. C'est un geste tout à fait simple. Et là, ça, évidemment, dans une petite ville comme Joliette, je pense qu'à Montréal, surtout sur le plateau, les gens disent « Ah, oh, c'est une autre performance! » Mais dans une communauté comme Joliette, à l'époque en particulier, ça a passablement déstabilisé l'habitus et les pratiques des citoyens qui ont téléphoné à la mairie, à la police, les journaux sont venus, qu'est-ce que c'est? Ça interroge, évidemment, dans l'espace public, ce monopole que la ville a sur les espaces de stationnement et comment ces espaces-là sont prêtés, partagés, sous quelles modalités. Et c'est par, encore une fois, l'attention des médias que ça se passe, comme je le mentionnais préalablement dans d'autres cas exemplaires, Occupy Wall Street et autres. Le cas de ces cas-là, de toute façon, implique une répercussion médiatique qui permet à, on va l'appeler l'artiste-chercheur, de répandre un message, ou en tout cas une des strates de sens qui se dégage de ces manœuvres-là. Des manœuvres non légitimes, et là on est quand même dans un monde où le non légitime est assez fugitif. Je ne sais pas si vous connaissez ce projet Welcome Home Box d'Alain Petler, qui est un artiste français. Il est venu à Montréal, il a trouvé des maisons à Westmount très intéressantes. Alors il a décidé, la nuit, de se promener avec le projecteur de cinéma et d'éclairer au milieu de la nuit des demeures des curieux de Westmount. Alain Leclerc est quelqu'un qui produit des objets, contrairement aux autres artistes qu'on a pu voir avant, qui ne produisent pas d'objets, un peu comme une prise de position par rapport au marché de l'art, entre autres. Alain Leclerc, lui, produit des photos. Donc, il a produit des photos qu'il a vendues. Il a réussi à l'instrumentaliser dans le marché de l'art, cette manœuvre-là. Mais je trouvais assez intéressant de la mentionner parce que, d'une part, il a quand même pris un bon risque pour réaliser ce projet. Et il est assez téméraire et assez simple et efficace.
Il avait l'autorisation ou
pas? Non, certainement. Oui, là, il a travaillé à l'aide de Claire avec le chef de police à Paris, qui est un tireur, il a fait beaucoup de tableaux, il dessine des formes symboliques, en fait, qui ont un impact symbolique assez fort à partir de tableaux réalisés par ce tireur d'élite de la police. Donc, tout un travail autour, justement, du légitime de l'appareil policier. Et il y a, j'ai failli écrire captation institutionnelle pour prendre un terme d'Alexandre Burita, mais ça, c'est un peu différent de la captation institutionnelle. Donc, je l'ai appelé infiltration institutionnelle. C'est peut-être ça qu'on fait parfois quand on vient prof à l'UQAM. On veut faire de nos cours, on peut imaginer que parfois ce sont des performances furtives et qu'on essaie d'apporter quelque chose, et ça peut être le cas de tout chercheur, n'est-ce pas? Je pense à Jean Descarry qui le revendique, entre autres. Mais il existe des infiltrations institutionnelles autres. Par exemple, Montréal en lumière, qui est une fête de la lumière au cœur de l'hiver, pour se désennuyer, qui est une activité fort divertissante et qui nous permet de sortir le soir, donc parce que ça stimule le tourisme, ça incite les gens à sortir la nuit, il y a de la lumière, c'est moins triste, c'est moins déprimant. Alors, Aude Moreau s'est dit, mais c'est merveilleux, je vais aborder les organisateurs de cet événement en leur disant que sortir, ça permet aux gens de sortir davantage, ça stimule donc cette fête lucrative, hein, et quand même de fun aussi, à travers la ville. Et elle a dit, je voudrais écrire sortir sur un immeuble en utilisant les lumières de l'immeuble, en pouvant établir des lumières, et avoir ce mot sortir. Et le résultat, c'est ça. Donc, sortir sur la tour de la Bourse, avec d'un côté le mot sort et de l'autre côté le mot tigre, pour Montréal en lumière. Alors, Montréal en lumière et la mairie ont reçu quelques coups de fil ce soir-là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le mot tigre sur la tour de la Bourse. Qu'est-ce qui se passe? Ça nous dérange, c'est un peu malheureux. Évidemment, c'était fait après le 11 septembre. Donc, ça nous rappelle aussi que d'ailleurs, le 11 septembre, l'Organisation civile de l'aviation internationale a sa tour de contrôle dans cette tour. Et la tour a failli être évacuée le 11 septembre parce que les gens de l'OACI et de l'ITO, IATA, surveillaient pour les Américains l'espace aérien la fin du 11 septembre, contribuait donc à l'effort de surveillance de l'espace aérien, puis la déstabilisation du système aux États-Unis. Et ils ont bien failli en sortir. Mais comment s'en sortir, comme disait les Arimuka? Comment pouvoir s'en sortir sans abdiquer? C'est aussi ce qui est proposé. En termes communicationnels, ça me semble assez intéressant. Si on veut le dire sur cette grille-là. Et en termes de géotransgression aussi, parce que la fonctionnalité de la tour de la bourse, c'est tout sauf essayer d'en sortir. Différentes prises de vue au cours de la nuit. On a beaucoup de lumière, on n'a pas très bien. Ça, c'est la montagne. Ça, c'est de l'autre côté. Parce que on voit que Belle est derrière la montagne.
C'est en quelle année, ça?
Je vérifie, c'est 2006 ou quelque chose comme ça. 2007. C'est assez habile, en fait, de la part de Moreau. Il le trouve machiavélique. C'est un beau machiavélique.
Éric, ce n'est pas une projection, là,
c'est les lumières
à l'intérieur.
Oui, c'est ça. Okay, elle a expliqué que
elle a réussi à faire ça.
Oui,
avec des amis de l'intérieur.
Je pense qu'ils ont vraiment pensé que c'était sortir pour s'amuser.
Oui.
Sortir. Ah, c'est super, sortir. Sur quel immeuble vous voulez faire ça? Attendez que j'y réfléchisse. Ah, peut-être la tour de la bourse, elle est grande, ce serait bien. Hein? Ah, c'est une bonne idée. La renardise a parfois de grandes qualités. Un autre renard notoire, et c'est le dernier que je vais citer, parce que j'ai décidé de parler tout simplement de pratique aujourd'hui et de lancer. L'idée de la géotransgression à partir de cette pratique-là. Là, on pourrait dire qu'il y a presque l'inverse de la géotransgression, mais ça s'y apparente, parce que Denis Tremblay va faire renommer, redécouper un territoire qui existe déjà légalement. Il ne fera pas que ça. Qui est au courant de ce projet de Lens-Saint-Jean? Je demandais à Denis Tremblay, dans un entretien à un certain moment, pourquoi est-ce que Fréchette et lui arrive à créer des manœuvres à aussi grande échelle, comment ils peuvent s'y prendre? La réponse de Denis était très simple, c'était on est en région, les gens sont très ouverts à essayer des nouvelles expériences sur le coup, parce qu'on va voir que là, ça va changer. Et il y a beaucoup d'espace pour ça, espace physique et espace culturel. Alors il suffit d'avoir quelques ressources, si on réussit à le faire en ville, on s'imagine très bien qu'on pourrait se heurter à certains problèmes. Donc, en fait, le roi de Lens-Saint-Jean, qui n'est plus le roi, c'est un roi déçu, maintenant. Déçu en exil au lac Clair. À quelques pas de là, d'ailleurs. Le lac Clair est l'endroit où Macosino a filmé un célèbre projet. Monarchie Lens-Saint-Jean, donc, c'est une monarchie municipale. C'est un roi de cœur et non pas un roi de sang. Il est élu par le peuple, par référendum. Donc, ce n'est pas une filiation. Un titre qui est transmis par filiation. Une forme de gouvernement légitime unique au monde permettant à la municipalité de devenir un royaume. Je pense au royaume du Saguenay quand même. Hein. Vous connaissez l'origine du mythe du royaume du Saguenay? Je ne sais pas si c'est exact, mais il semble que lorsque les Européens sont arrivés ici dans la région d'Hochelaga ou Montréal, ou peut-être Québec, je ne sais plus, il y a un autochtone qui a dit aux navigateurs, « Ah, mon Dieu, ici, vous perdez votre temps. Allez plus au nord, il y a un royaume avec de l'or, beaucoup de richesses. Allez-y. » Alors, ils se sont débarrassés provisoirement comme ça des envahisseurs. Et ils ont cherché le royaume. Ils ont jamais trouvé, mais c'est demeuré ce royaume où il n'y a pas de richesses, où il n'y a pas d'or, où il n'y a pas de pyramide majeure, où il y a finalement une autre richesse qui va devenir plus tard l'hydroélectricité et le bois, mais ça, c'est autre chose. Et donc, une des richesses aussi de Chicoutimi, ça a été d'avoir un département d'art très expérimental à l'UQAP, où un professeur qui s'appelle Denis Tremblay, est le premier docteur en art au Canada, a formé pas mal d'étudiants en recherche-création. C'est un des pionniers de la recherche-création, vraiment, en termes académiques. Vous savez, de l'université qui m'a donné. Et qui lui-même a une pratique. Au départ, c'est la pratique de l'illustre inconnu. Donc, un artiste un peu anonyme qui se déguise avec un accoutrement un peu militaire, qui fait une performance par année. La première performance est véritablement fictionnelle Et petit à petit, les performances évoluent à chaque année pour s'ancrer un peu plus dans la réalité sociale, avoir un impact sur le réel. Ce qui fait qu'après une dizaine d'années, l'illustre inconnu doit s'ancrer dans le réel en devenant autre chose que l'illustre inconnu. Et il devient donc, il propose donc aux habitants de Saint-Jean, dont la région a été dévastée par, vous vous rappelez, la fameuse inondation. Comment on dit?
Il
y a un autre mot pour ça. Le déluge. Voilà. Et dont l'économie était déjà assez fragilisée par l'exode démographique. Donc, proposer à ses habitants un projet qui pourrait relancer l'économie tout en créant une nouvelle dynamique relationnelle entre les personnes, en créant une espèce de corps de citoyens. Et la question référendaire, c'est voulez-vous que l'illustre inconnu soit proclamé roi de la municipalité de Saint-Jean avec mandat de promouvoir le projet Saint-Jean du millénaire. Projet très simple, il s'agit de créer le visage de Saint-Jean-Baptiste sur la montagne, visible à partir du village. Et là, c'est vraiment une sculpture végétale. Saint-Jean-Baptiste, pourquoi Saint-Jean-Baptiste? C'est évidemment le patron des Québécois, mais pour Denis Tremblay, c'est un révolutionnaire. À l'époque de Jésus, Saint-Jean-Baptiste était un être politiquement, humainement, philosophiquement révolutionnaire. Pardon?
C'était un hippie.
Hardcore. Alors, oui, ça passe. Incroyable, 600 oui, 222 non, 5 rejetés et un bulletin annulé. Dans les entretiens réalisés par Radio-Canada, découvre des choses assez troublantes, entre autres que certains habitants interviewés qui ont voté oui disent « Ah oui, nous on est chrétiens, puis ça va être un roi chrétien. » Et puis il y a ce côté, j'étais à Denis, mais toi t'es pas vrai. Oui, t'es chrétien, mais est-ce que t'es croyant de la même manière que les gens qui ont voté pour toi? Alors il y a une espèce de zone grise là où Denis Tremblay a joué, ça pose des questions éthiques en termes de recherche-création. Jusqu'où on est transparent, jusqu'où on va dans ce qu'il faut pour accomplir un projet, quitte à aller vers un canular envers les citoyens. Donc, il y a une dimension éthique qui soulève de nombreuses questions dans ce projet. Ça n'enlève rien à l'aspect fascinant de ce projet, puisque la proclamation est donc que le roi est roi. Le roi ne demande pas de salaire à la ville. Il a un projet, il a des budgets peut-être de l'UQAC, il a un salaire de l'UQAC. Il a donc les moyens de réaliser son œuvre. Et il a obtenu quand même une subvention du Conseil des arts du Canada, qui, je le rappelle, est une société de la couronne britannique. Et donc, il proclame ou il annonce que la société de la couronne, le Conseil des arts du Canada, a donné à la couronne de l'Anse Saint-Jean un certain montant pour faire réaliser les bijoux, les joyaux de la couronne, qu'on va voir ici. On a dans son assermentation, d'ailleurs, la dimension chrétienne. Je jure d'être un roi très chrétien. Donc, ça soulève cette dimension éthique dont je vous parlais. Et voici les bijoux de la couronne avec le sceptre de la paix, l'épée de la paix, ici. Donc, il n'a pas de bout tranchant, il n'a pas de pointe. Un sceptre, donc ce sont des travaux commandés aux artisans de la région de l'Anse-Saint-Jean. Ce qui est assez fascinant, je n'ai pas cette image ici, mais Denis Tremblay va de plus en plus loin. Il demande à la Commission de la toponymie du Québec de rebaptiser les fiefs qui vont être vendus symboliquement pour financer le projet Saint-Jean du millénaire, donc le visage de Saint-Jean-Baptiste, qui va attirer des touristes. Il y a une brasserie qui est fondée, la brasserie royale, et finalement de la monnaie royale commence à circuler. Lors de la visite de la reine au Canada à cette époque-là, Denis Tremblay envoie un message à la reine pour lui demander une audience entre souverains. Il se heurte à un refus. On voit que petit à petit, le projet de Denis Tremblay prend de l'ampleur et à l'endroit des billets de banque, il y a le projet New Babylon de Constant Newman House. D'où le fait que Denis Tremblay s'inscrit dans cette lignée de l'international situationniste, d'une part, on transgresse la perception qu'on se fait de la géographie habituelle en la modifiant dans le réel, légalement, mais en mettant en circulation une monnaie qui a valeur d'échange localement, mais qui n'a pas de valeur d'échange à l'extérieur, mais qui pourrait en avoir évidemment dans ce New Babylon, pour avoir d'ailleurs différentes monnaies, pour avoir autant de monnaies que de personnes, tout comme il peut y avoir autant de méthodologies que de projets de recherche-création. L'idée étant de créer un réseau. Et malheureusement, les radios poubelles et peut-être les questions éthiques, parce qu'il y avait des brèches éthiques, entre autres comment l'argent du Conseil des arts a été dépensé, l'argent investi, parce que finalement, il y a quand même eu un investissement financier pour la réalisation du projet Saint-Jean du Millénaire, comment l'argent a été investi, soulever des questions au Conseil municipal. Et ce n'est pas Radio-Canada qui a destitué le roi, c'est vraiment des radios poubelles de Saguenay qui se sont acharnées sur le roi pour le ridiculiser. Ce qui fait que rapidement, les habitants de l'Anse-Saint-Jean, les Angelois, se sont sentis extrêmement intimidés et ont eu même honte de leur roi, qui a abdiqué dès lors et est devenu ce roi déçu, en exil au Lac-Claire depuis. Je ne vais pas faire beaucoup de théorisation aujourd'hui, parce qu'à la suite surtout de ce que Louis-Claude nous a lancé, je trouve qu'on a déjà du stock théorique assez intéressant pour même faire un lien avec les cas exemplaires que je vous ai montrés et le concept de géotransgression, qu'il soit symbolique, qu'il soit physique. Je l'appelle corps géotransgressif parce qu'un groupe de gens qui se retrouvent dans un espace pour pratiquer cette géotransgression peut être aussi considéré comme un corps. Évidemment, je pensais aux opposants de ce type de groupuscule-là, le corps policier, on dit que c'est un corps en tant que tel. Est-ce qu'on parle d'un corps citoyen? Est-ce qu'on parle d'un corps d'activiste? Peut-être, c'est à voir. Mais je laisse ces questions-là ouvertes parce que je ne peux voir que le temps avance vite. Et j'aimerais vous entendre, je me nourris de vos questions, en fait, puisqu'il nous reste 30 minutes à peu près.
Déjà, merci beaucoup, Eric. Ça va être à toi.
Je vais commencer avec une question très rapide et très courte. Quelle était la question de recherche du projet de Denis Tremblay, d'après?
Je ne sais pas s'il a créé une question de recherche, mais son frère, qui est interviewé dans le reportage qu'on trouve sur le site de Radio-Canada, son frère est mathématicien, puis il dit, Denis, travaille un peu comme moi. Moi, je travaille avec des théorèmes et j'essaie de les prouver. Et Denis essaie de faire la même chose. Alors, je ne connais pas la question de recherche. Si elle a été formulée, je ne la connais pas. Mais je peux imaginer que la question de recherche, ça ressemble à comment l'art appliqué dans le réel peut-il modifier les rapports entre les individus dans un habitus. Et comment ça peut se faire en détournant la fonction symbolique des institutions, donc de l'institution monarchique. Et Denis Tremblay savait très bien qu'en détournant l'institution de la monarchie, il allait choquer Ottawa, il allait choquer Québec en faisant un référendum, il allait se mettre à dos de la communauté artistique qui est absolument dans la lignée des Lumières et contre la monarchie. Quand même, les artistes sont héritiers des idées des Lumières, je crois, encore aujourd'hui. Elles ont évolué, mais quand on est dans la communauté artistique, il y a une idéalisation de ce que peut être le monde politique et de ce que peut être le monde ou la société qui est assez répandue, assez uniformisée. Et cette idée-là exclut d'emblée l'idée de monarchie. Donc, Denis Tremblay savait, je crois, qu'il allait interroger, il allait soulever des questions auprès de la plupart des gens qui allaient être mis au courant de cette manœuvre-là.
J'aimerais poser une autre question. Dans tous ces projets et dans tout le concept de la géotransgression, moi, je sens un rapport avec un phénomène qui n'a pas été mentionné, et c'est la violence systémique plutôt, parce que quand on parle de violence dans le concept benjamin, par exemple, de la violence mythique qui est fondatrice et conservatrice de droit, avec des projets pareils, avec des mouvements pareils, on va toujours se heurter à la violence du système, à la violence du droit, de ce qui est légal, de ce qui est, en effet, ce qui est illégal. En se heurtant à la police, on va se heurter, parce que d'après Benjamin aussi, la police, elle s'approprie les deux type de violence mythique, la violence fondatrice de droit et la violence protectrice de droit. Donc dans chaque événement, dans chaque projet, dans chaque pratique citée ici, il y a eu des récentes comme The Standing Rock par exemple, et tout ça. Est-ce que les artistes travaillant dans des projets comme ça se sont jamais posé la question de la violence systémique?
Je Je pense qu'il se pose la question de la violence systémique très certainement, d'autant plus qu'il la vit. Quand on s'expose comme artiste, c'est notre corps qui est en jeu, alors on est confronté à cette violence systémique-là. Et c'est cette violence systémique, telle que tu l'as décrit, c'est une réalité qu'on peut difficilement transformer par ces pratiques-là. Par contre, ces pratiques-là, c'est un peu comme en ethnométhodologie. Elle nous permet d'aller sonder ce qui est possible de négocier, quels espaces on peut négocier dans ce système de violence systémique-là. Donc, c'est négocier avec les policiers qui viennent interpeller un groupe, et si le groupe nous a nommé porte-parole ou si on devient naturellement le porte-parole du groupe, c'est comment on fait pour protéger le groupe de cette violence-là. Et là, on apprend comment ça fonctionne, d'une part. Deuxièmement, la violence systémique, c'est pas quelque chose de lisse, uniforme et fermé. C'est un système quand même poreux et ouvert. Il y a des êtres humains qui sont là. C'est pas tous les policiers qui sont des 7-28. Donc, il y a un moyen d'aller soit en amont négocier, même parfois demander... Moi, j'avais des contacts dans la police. J'appelais un copain policier, je disais, okay, on va faire telle et telle, action. Pour aller le plus loin possible, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire? Alors, si tu fais ça, ça et ça, s'il y a un policier qui vient de voir, tu lui dis ça, là, tu pourras peut-être faire ça pour aller plus loin. Et jusqu'où on peut aller comme ça? Parce que dans la police, dans les systèmes de contrôle formels, il y a toutes sortes de gens qui ont toutes sortes d'opinions. Hein. Et c'est aller sonder comment ce système-là fonctionne. Il n'est pas monolithique, il est organique. La violence systémique est là, d'une part, mais elle n'est pas... elle n'est pas complètement fermée sur elle-même. Et je dirais qu'à l'opposé, et je ne dis pas ça du tout pour invalider ces gestes-là, lorsque le Black Bloc, dans une manif étudiante, brise la vitre de la caisse de dépôt, je trouve que c'est un geste quand même que je ne peux pas être pas d'accord avec ce geste-là, mais je peux être en désaccord avec... une dimension de ce geste-là, mais une autre dimension avec laquelle je suis d'accord. Ça se discute. Ben là, on voit très bien qu'il y a une violence aussi qui est réciproque. C'est pas seulement détruire un symbole, c'est aussi la preuve de violence. Est-ce que Jésus était si pacifiste que ça quand il disait « Je reste là et je tends l'autre joue si on me frappe » ou est-ce que c'est un défi? Ne pas bouger, rester dans un endroit où c'est interdit, peut-être ça dépend de la perspective considérée comme une forme de violence, une violence envers le système de violence systémique où la loi, les codes de loi, ce qui est considéré comme étant légitime comme loi. Donc, je ne crois pas qu'il y ait les pacifistes, gentils, activistes, artistes d'un côté et les méchants policiers de l'autre. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et la violence systémique, elle est beaucoup plus ancrée dans nos vies quotidiennes et dans les appareils bureaucratiques, à mon avis. Elle est tout aussi présente au quotidien, à chaque heure de notre vie, ne serait-ce que dans la production d'espace, que dans des événements qui sont ponctuels comme ceux-là. La violence systémique, elle est là aussi, mais elle est là à chaque heure de notre vie, à mon avis.
Je vais laisser la parole à l'ange des participants.
Jean-Pierre, Cynthia.
Cynthia, prise 2. Merci pour la présentation. Dans la présentation, ben, on sait dans la communauté de recherche création, il y a plusieurs discussions dont, entre autres, on fait partie à savoir comment s'articule la démarche de recherche-création dans le milieu artistique, ce qui était là, en fait ce que tu nous exposais dans ta présentation aujourd'hui, puis comment ça se transpose aussi, cette démarche-là de recherche et de création quand on rentre dans le contexte universitaire. Donc, je serais très curieuse de t'entendre sur toi-même quand tu passes de ces réflexions-là sur la géotransgression dans le cadre de ta pratique à une fois que ça rentre un peu dans cette réflexion-là, l'espace, puis quelle place t'accordes aux perspectives critiques dans ta démarche, comment tu fais?
C'est une bonne question. Je veux dire que la source même du néologisme, c'est d'essayer de théoriser sur quelque chose qui est... Genre, oui, les gens qui vont là où ils n'ont pas le droit d'être, et ta. Donc, avec un mot, on a un concept qui n'est pas parfait, mais qui nous permet d'opérationnaliser une analyse plus générale de ça, j'espère à moyen terme. Ensuite, il y a des questions qui se posent, mais en tant que professeur, je me pose la question, quel est l'effet de les impératifs de l'institution sur la recherche-création? Dans le sens, est-ce que la recherche-création, supposons que je considère que bien avant d'être à l'université, d'être professeur, mettons, je faisais de la recherche-création de toute façon, qu'un paquet d'artistes en font, même s'ils ne sont pas liés nécessairement aux universités. Quand la recherche-création arrive à l'université, quel effet les modes imposés d'évaluation du projet, et je ne parle pas juste d'évaluation finale, je parle entre autres, et on travaille sur ça ensemble, de la question éthique. Comme passer devant un comité éthique qui nous dit « Ah, Cynthia, tu vas parler à des gens sur la rue avec un micro, tu vas peut-être leur faire du mal, il ne faut pas que tu les enregistres, tu ne peux pas enregistrer ça, et là tu te retrouves… » Bon, excuse-moi, je dévoile des choses, j'espère que ça va, mais je connais le processus. Et finalement, comment contourner cette règle-là en faisant du direct, par exemple, de manière anonyme sur une radio web, ce qui était ton projet. J'espère que maintenant, pas trop. Tu m'arrêtes. C'est bon. D'une part, la contrainte, elle a un effet. Ben, toi, tu en as fait quelque chose de positif, parce que les contraintes nous forcent à être créatifs. Ça donnait un super beau projet. Mais si tu n'avais pas eu cette contrainte-là, comment arrêter ton projet? Est-ce qu'elle aurait été plus personnelle ou pas? C'est ça que je me demande. Je pense qu'elle était très personnelle, mais toi, tu allais dans une direction et le bureau le comité d'éthique a dit « Ah non, Cynthia, ça c'est une limite que tu ne peux pas franchir. » Donc, l'artiste qui est dans un processus de très intime, autant par rapport à soi que par rapport à son milieu associé. Ça va dans une direction et les contraintes comme ça changent la direction. Parfois, ça peut être bien, parfois, ça peut être moins bien. Nous, on ne sait pas parce qu'on ne peut pas comparer les deux projets. Et comme le projet final était très bien, tout le monde était content. Mais qu'est-ce qui serait arrivé si tu n'avais pas eu ces contraintes-là? Donc, c'est une question importante parce que quel effet l'institution ou les impératifs de cette institution ont-ils sur le processus en cours de réalisation, puis on pourrait l'appeler au final avec une note, voire qu'une mention. Une mention et l'obtention d'un diplôme. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir le diplôme? Qu'est-ce qu'il faut pour pas qu'il arrive à ce que Louis-Claude mentionnait plus tôt, à l'étudiant d'Aaron Manning, qui n'a pas eu son diplôme parce que c'était trop flyé, entre guillemets, pour le jury? Ça, c'est des bonnes questions. Jusqu'où on peut aller? On est quand même assez limité. Je pense que ce que j'aime beaucoup de la présentation de Louis-Claude, entre autres, c'est que tu essaies de trouver des moyens de repousser ces barrières-là en apportant des arguments théoriques et une réflexion sur le sujet. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
Mais je suis curieuse de savoir comment toi, tu navigues, surtout.
Comment moi, je navigue comme professeur?
Oui.
Je vais être très honnête. Okay. Je navigue de manière post-permanence. Tu as 4 ans pour avoir de la permanence. Donc, il faut que tu fasses un peu de caméléon par rapport à l'institution. Ici, ça va, on est une structure horizontale. On a des collègues bienveillants en général pour ce genre d'approche-là. Mais pas tout le temps, l'école des médias. Il faut faire attention. Il faut que le petit caméléon s'intègre. Puis, quand il y a sa permanence, il dévoile ses couleurs. T'sais. Alors, ce que je me suis aperçu, ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'ai dévoilé mes couleurs. Alors, ça fait 4 ans que je me suis adapté aux couleurs de l'environnement. C'est que je n'arrive plus à trouver. Je pensais que ça allait se faire comme ça, dans son coin. Tu sais comment les caméléons peuvent être rapides, hein? C'est assez rapide. Là, je m'aperçois que c'est plus lent que je pensais. Je suis en train d'essayer de me retrouver. Puis aussi, j'ai acquis une certaine bagage, plus la même personne qu'il y a 4 ans. Donc, pour retrouver ces couleurs-là, ce pas les mêmes couleurs qu'il y a 4 ans que je veux, là. Mais là, je ne sais plus qu'elles sont. Je sais à peu près ce qu'elles sont, mais j'ai perdu certaines de ces couleurs-là. Je suis en train de les retrouver. Mais là, je vais me heurter aux limites de l'institution encore. Quand les couleurs vont être trop vives, quand le caméléon va être dans un espace qui n'a pas le droit d'aller, il va faire sa géotransgression, là. Il va avoir des comptes à rendre avec l'institution. Et donc, il marche lentement, puis sa couleur revient très doucement. C'est un peu très bon.
Il y a une question de masse critique aussi, parce qu'on dit que le caméléon a la couleur du caméléon en autant qu'il est avec d'autres caméléons.
Très intéressant. C'est vrai. Même chose qu'on a des caméléons avec des bonnes couleurs là, autour de nous.
Jusqu'à ta permanence. Après ça, tu pourras changer d'animal. Tu pourras devenir un renard
peut-être.
Plein de plein roi.
j'aime beaucoup les renards. Bon, c'est un autre modèle.
Ou un castor.
Vous avez une question, je pense.
Moi?
Oui.
Oui, d'abord, vous avez votre présentation comme celle de M. Parkin.
Ça se complète bien.
Oui, tout à fait. C'est là ma question. Là est ma question, justement. Je m'appelle Danielle Lafontaine, professeure en développement régional à Rimouski durant 32 ans. Et je suis depuis 10 ans dans les démarches participatives, la co-construction, blablabla. Bon, tout ça. Alors, je suis très intéressée, notamment par l'introduction de l'espace dans votre élément, que je trouve un élément très, très, très intéressant. Le corps individuel, l'individuation, Simondon, mode d'existence des objets techniques, mode d'existence des humains. Alors, c'est tout passionnant, ça. Et là, je vous écoutais sur cet exemple que vous avez amené, vous avez traité longuement, du roi de Lens. Vous avez amené beaucoup de votre interprétation sur ce cas. Voilà bien. Et là, je me dis, bon, là, travailler ce cas en se demandant si et comment, peut-être, vous en pensez, comment ce cas, là, comment le gars en question, voilà, me dit, ah, il est réfugié, il est exilé, OK, y a-tu écrit, y a-tu pensé, et pourrait-il prétendre le passé? Et de quelle manière, comme doctorat en communication, volet l'expérimentation
pratique?
Comment est-ce que faudrait-il, comme ingrédient, est-ce que, et en termes, parce que vous nous avez parlé de ce cycle, hein, je réfléchis, je fais, je reviens, si lui, là, il revient, il va, il est allé, bon, il revient, et dans quelle mesure, quel ingrédient prendrait-il ou quel type de démarche, quelle énonciation? Projet. Alors, faudrait-il pour que, parce que ça, en creusant juste cet exemple-là, ça donne une bonne idée de ce que pourrait être ou pas un doctorant en la matière sur ce volet-là. Alors ça, c'est, comment vous voyez l'affaire, je trouve ça important. Une autre affaire qui me trouble là-dedans, c'est la dimension critique. Critique, je m'étais mis que là, j'avais lu quelque chose en m'en venant, et un chercheur disait critique que c'est un constant effectif pour ne rien prendre pour acquis. Alors je trouve que la dimension critique de son action, curieusement, l'amène à déconstruire l'espace municipal dans lequel il est pour en faire un royaume. Quelque part, par un retour en arrière au principe de l'espace de royauté, comme les communes, ou comme l'espace qui allait avec ce type, l'espace du souverain, mais ça c'est avant, c'est bien avant, presque les communes du Moyen-Âge, on passait au Moyen-Âge de Renaissance, c'est par un curieux retour en arrière, autoritaire, avec les symboles aussi, le sceptre d'un côté, le bâton de l'autre. Quelque part, ça critique et sa déconstruction de l'espace dans lequel il est. D'ailleurs, je me souviens de ce cas-là parce qu'il s'opposait à la création de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour dire je vais aller vers les plus petits royaumes et installer ma souveraineté. Quelque part, il y avait un petit peu l'idée de la guérite sur son territoire. Fait que, curieusement, si j'étais en communication et que j'avais à introduire une réflexion sur ma pratique et ma dimension critique, comment est-ce que je reviendrais sur une pratique et ses effets et sa diffusion et dans quelle mesure je pourrais, selon vous, en faire un doctorat et à quelles conditions?
Donc, en fait, il y a deux questions. Hein?
Il y en a deux.
Il y en a deux. La première, peut-être pour en fait, la deuxième, la notion de souveraineté, je pense que c'était au cœur de la pratique.
Exact.
Le Parti québécois était au pouvoir à ce moment-là, d'ailleurs. C'était donc une appliquée hein, de la politique.
Oui, tout à fait.
Les pratiques politiques au Québec depuis la défaite du premier référendum. Moi, je ne peux pas entériner, comme je dis, ça pose des questions éthiques. Je pense qu'il y a eu des erreurs dans ce projet-là, puis je ne suis pas genre émerveillé, c'est merveilleux. Là où je suis émerveillé, c'est par plusieurs dimensions du projet, mais il y a des dimensions avec lesquelles. La dimension éthique, entre autres, justement. Quand on essaie de déconstruire quelque chose, on se fait prendre à son propre jeu. Par exemple, la micropolitique, ça, c'est un de ces thèmes. Donc, l'idée qu'il y a différents royaumes et faux royaumes. Et aussi, l'espace de souveraineté de l'enseignant, ce n'est pas substitué à l'espace municipal. Il est venu se rajouter comme une couche symbolique. Hein. Donc, comme un deuxième espace hétérotopique. Hein. C'est ce qu'il a fait dans sa thèse de doctorat, ça nous amène là, où il y avait une valise diplomatique, avec un diplôme diplomatique, que l'illustre inconnu a déposé à son jury. Donc, avec vraiment un objet qui contient la thèse et une performance qui est la thèse.
Je ne savais pas qu'il y avait
Une thèse avec ça. Okay. C'était d'ailleurs dans le livre d'Hervé Fischer, il y a la photo de la valise diplomatique et le manifeste de l'international périphérique. Donc, il faut aussi placer dans ce contexte-là l'international situationniste, l'international périphérique, vous voyez un peu le genre de lien qu'on peut faire, et le New Babylon de Constant, donc ce qui est en périphérie. Des petites régions, les gens oubliés qui ne sont pas dans le centre, les grands centres, qu'on appelle l'hégémonie du modèle métropolitain. Donc, il y a cette critique-là. Et je pense qu'au départ, fort probablement, son idée était de promouvoir la micro-organisation à l'interne, avec un roi qui peut destituer n'importe quand, puis qui, dans le fond, occupe une fonction symbolique presque touristique. Hein. C'est une espèce d'attraction touristique. Pour nourrir les régions en termes économiques. En fait. Mais ça peut être une autre tactique. Ensuite, je ne suis pas au courant de savoir comment il s'est opposé à la création de la région du Saguenay, mais je pense qu'il est contre les macrostructures.
C'est
pour ça. Donc, il est pour les microstructures, il est pour la micropolitique, et je pense qu'il y a quand même un fond anarcho-syndicaliste, c'est très paradoxal, pour un roi, au fond, de ça, comme en sous-texte dans la démarche. Mais là où il s'est peut-être perdu à un moment donné, c'est dans la complexité de l'appareil symbolique qu'il a mis en place, qui s'activait dans le réel, dans la légalité, dans le découpage du territoire. Puis comme beaucoup de gourous de sectes, si on peut le surnommer comme ça, il s'est un peu perdu. Ça, c'est fort possible. Il faudrait lui demander aujourd'hui avec du recul comment il perçoit ça. Mais pour sa thèse, il faut voir le livre d'Hervé Fischer, il y a une description de la thèse. Et le jury est un peu abasourdi.
C'est peut-être en art.
Ah non, c'est rien. On aurait.
Je pense. Et ici, comme Doc, encore, avec un peu les préoccupations qui seraient celles de ce doctorat en com. Volet, est-ce que tu verrais qu'un cas comme ça, lui il a fait sa thèse, je ne savais pas, en art,
mais
d'après ici, trouves-tu que ça pourrait être un cas intéressant?
Quand il l'a fait à la Sorbonne, c'était dans les années 80, si je ne me trompe pas, fin 70, début 80.
Donc avant ce qui...
Ah, bien sûr, oui, c'était les Russes inconnus qui...
Non, moi, je parlais
d'un
doc sur ce
que... Ah, sur ça! Mais je dirais que dans l'intention du manifeste périphérique, il y a déjà des germes de tout ce qu'il allait faire comme roi après. C'est comme si son doc avait été un des éléments fondateurs. C'est au début de sa pratique. Il habitait Paris. Il a fait la première action avec Hervé Fischer et Pierre Stani. C'est l'illumination des restes de Sa Majesté l'Histoire de l'art métropolitaine, qui était une procession dans Paris, qui descendait à Beaubourg, et dont les restes de cette majesté l'Histoire de l'art métropolitaine étaient dans une valise qui était oubliée dans une salle de Beaubourg, et se retrouvaient donc aux objets perdus du musée d'art moderne. Donc c'était tout un système symbolique, un jeu symbolique, et sa thèse, c'est autour de ça. Donc je dirais que c'est un peu l'inverse, il a commencé par sa thèse. Là, qui est commandé au postdoc. Qu'est-ce qu'il ferait? Mais ça, c'est comme son espèce de postdoc que je n'ai pas eu. Je ne sais pas, en fait, comment... Il faudrait lui poser des questions sur le plan méthodologique et, symbolique, comment dans la gestion de la diplomation universitaire, il perçoit ça. Je ne peux pas répondre à cette place. Oui, il y avait Jean-Pierre, puis...
Il y avait Darry, là.
Ça me fait poser beaucoup de questions, je trouve ça vraiment intéressant. C'est des questions qui reviennent tout le temps par rapport à la question de la critique, l'engagement social dans l'art et tout. Puis une des choses que je me pose, c'est si l'objectif, ben c'est comme ça que je le vois dans une perspective critique, c'est de créer un mouvement collectif en vue de transformation sociale. C'est comme ça un peu que je le vois. Je me demande tout le temps, admettons la pratique, la dernière pratique, où les pratiques sont plus... qui partent plus de l'individu vers... dans le fond, en quoi cette pratique-là peut participer à ce que les gens participent? En quoi ça, à quoi ça peut... Ben, c'est une question large que j'aimerais réfléchir. La question symbolique, la question... le rôle de l'artiste, l'intellectuel comme agent de transformation, c'est quoi ses limites là-dedans? Puis dans ce qu'on a vu, comme le dernier exemple, vu que les citoyens n'étaient pas impliqués dans ce processus-là, là-dedans, les citoyens...
Ils étaient impliqués à différents niveaux.
Ça leur a peut-être fait apporter une réflexion intéressante là-dessus, mais jusqu'où ça va dans cette question de transformation sociale?
Par rapport à cet exemple-là ou en général?
Je trouve l'intransitionnisme, je trouve qu'ils ont une approche qui justement de ramener l'art dans le commun, ramener que je trouve qui participe à ça, justement, ce mouvement collectif-là. Mais je me pose tout le temps, puis je ne dis pas que la personne ne le fait pas, mais je me pose tout le temps la question, comme artiste, comment le symbole, le rôle du symbolique, qu'est-ce que nous on peut amener, puis quel rôle ça a sur l'implication de la transformation, si on est comme ça.
Je vais répondre avec un autre exemple. J'avais quand même des exemples dans ma poche. C'est un projet qui a été réalisé par un collectif dont je faisais partie, avec Philippe Côté de la Société de conservation du présent, avec d'autres personnes. Joanne Chagnon, entre autres, de la fondation, son organisme s'appelle Engrenage Noir. Et à l'époque, Engrenage Noir, au tout début d'Engrenage Noir, il y avait un volet activiste, art activiste, et on s'intéressait à l'assiette fiscale des particuliers, à savoir... pourquoi les particuliers paient à peu près 80 ou 70% de ce que l'argent, des montants que le gouvernement perçoit pour faire rouler notre belle province, et les entreprises à peu près entre 40. Je pense qu'Alain Leno avait des chiffres un peu différents dans son dernier livre. On sait qu'il y a une disparité. Alors on s'est intéressé à ça, à savoir pourquoi les corporations ne payaient pas d'impôts. Et pour répondre à la question, on s'est dit on va mobiliser les gens dans un processus. Alors, on sait très bien que ce processus-là va avoir des limites, on va voir jusqu'où on peut aller, comme on va essayer d'éprouver un théorème. Alors, si on crée une fausse compagnie qui donne des abris fiscaux démontables aux particuliers pour qu'ils puissent se protéger, tout comme les compagnies le font, en termes symboliques, comme un IKEA de la fiscalité, on va fonder Abribec. Alors, évidemment, il fallait trouver le nom le plus ringard possible, le plus laid. Et je disais abri, parce qu'on parlait des abris fiscaux, et on avait l'idée de mettre des affiches subversives détourner la fiche du gouvernement provincial sur l'équité et la pauvreté, comment le gouvernement était merveilleux à l'époque pour aider les gens en difficulté. On voulait donc détourner une affiche et les mettre dans les abribus. On faisait oui, abris fiscaux, abribus. Ils disaient, quel est le nom que le gars va trouver? Ah, puis là, dans une soirée bien arrosée, c'est Abribec. Oh mon Dieu, c'est terrible comme nom. Alors, j'ai cherché, j'ai googlé Abribec et ça existait. On s'est dit, mince. Je téléphone, il y avait un numéro. Une dame, je disais, vous êtes bien à Brébec, elle dit, bon, oui. Je disais, est-ce que votre nom, vous l'utilisez? Ah non, on ne l'utilise plus. Je disais, est-ce qu'on peut le prendre? Elle dit, oui. Je dis, merci beaucoup, je raccroche. Et on a fondé à Brébec, abri mesure pour les citoyens, suppôt de la nouvelle humanité fiscale. Et à Brébec, c'était d'abord un site, qui sommes-nous, une compagnie québécoise qui répond à tous les besoins d'abris fiscaux pour les plus fortunés comme pour les plus défavorisés. C'est ouvert à tous. Qu'est-ce qu'un abri fiscal, un moyen reconnu légal de sauver de l'impôt? Seuls les riches vont en profiter, mais maintenant, grâce à Abribec, vous qui êtes pauvres, vous allez pouvoir en profiter aussi. Alors, sur le site, on avait des modèles. On pouvait avoir les modèles. Puis on avait aussi les nouvelles. Ça, c'est détournement et fausse représentation. Le gouvernement nous a accusé de fausse représentation parce qu'on avait repris la fameuse affiche qui devrait être. Où est-elle là? Qui était à l'époque l'affiche Agir du gouvernement. Agir pour les inégalités. Le gouvernement avait une affiche comme ça. Agir pour les infrastructures. Le gouvernement investit 18 millions à l'UQAM. Agir. Il y a ce personnage dynamique, l'air content. Alors, on a gommé le personnage. On a fait, en bas au Québec, on a fait sauter une des fleurs de lys avec le petit symbole de l'explosion qu'on a sur les aérosols. Québec explosif. Et on a ici, donc, un message qui dit que des patrons qui cherchent des abris fiscaux pour ceux qui refusent que travers le minimum sort de la pauvreté. C'est à l'époque où le regroupement de lutte contre la pauvreté était très actif, etc. Impôts qu'on réduit à coups de millions pour les entreprises, c'est ce que c'est l'avenir qu'on veut. Fini le temps des poids, deux mesures. Donc, sur le site, on a des nouvelles. On peut avoir l'affiche gratuitement. On a des photos d'où l'affiche a été posée. On voit les lieux. C'est dans la ville de Québec qui a déclenché cette colère du gouvernement qui nous a sommé de retirer les affiches. Mais comme le contrat finissait 3-4 jours plus tard, on n'a rien fait. On a attendu la fin du contrat et entre-temps, les journaux s'étaient emparés de la nouvelle. C'était parfait. On a réussi à, encore une fois, attirer l'attention des médias pour soulever les enjeux dont on voulait parler. Alors, on a eu des entretiens à la télé, à 4 à l'époque, je pense, 4 saisons, c'était ça, c'était la TVA. On a eu Le Voir, on a eu Le Devoir, on a eu différents journaux. Puis on a pu exprimer nos idées, exprimer maintenant beaucoup mieux, peut-être articulé par Alain Deneau, qui est un spécialiste en la matière. Mais à l'époque, c'était dans les grands médias un sujet dont on ne parlait pas. Donc, on a réussi à percer le mur du grand média pour aborder ce genre de sujet qui était pas encore abordé sur le web. Donc, aujourd'hui, des centaines de documentaires sur le sujet, sur YouTube. Et ce qui était le fun, c'est qu'en fait, on avait des abris fiscaux, différents types d'abris. On avait l'abri pour les artistes professionnels, les modèles professionnels, artistes en voie d'ascension sociale, parce qu'on sait que plupart des artistes veulent finalement du compte s'enrichir, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais on voulait rire de notre propre gamme. On avait un modèle par rapport au paradis, en tout cas, tout ça, c'est le modèle, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un commandait le modèle, notre système générait 10 courriels de protestation envers la politique que le gouvernement est en train d'adopter pour combattre la pauvreté, et c'est envoyé à 10 députés au hasard de l'Assemblée nationale. Alors, à chaque clic, ça s'envoyait. On était en 2003 ou 2004, au même avant. Donc, c'était assez nouveau, ce genre de choses. Et ils ont été inondés de courriels, comme ça, dans leur boîte de protestation, qui se généraient à chaque fois que quelqu'un commandait l'abri ou l'affiche. Et on avait même donné des bons du trésor, $1,000 de rabais sur votre rapport d'impôt. Vous devez galbrocher, etc. On espère que certaines personnes ont essayé de le faire, mais si elles ont essayé, on espère qu'elles n'ont pas trop souffert. Puis on a créé une norme ISO aussi, parce qu'évidemment, quand on veut de la qualité, il faut que ça soit certifié ISO. Donc la norme ultime, la norme des normes de la qualité à l'état pur, devait être ISO 1 milliard, puisqu'on est vendu à peu près à 10 000 ISO. Donc on a créé ISO 1 milliard. On a fait un site .ch d'ailleurs, parce que c'est en Suisse. ISO. Et là, on a des cartes de compétences. Les gens pouvaient nommer leur propre compétence et obtenir une carte de compétences professionnelle sur la compétence de leur choix. Ils reconnaissaient eux-mêmes leurs propres compétences. Donc, je ne peux pas dire que ça va révolutionner le monde, là. Mais c'était un travail vraiment en relation avec les gens, avec les communautés. Ce n'est pas une communauté nécessairement inscrite dans un espace circonscrit. Là, c'était l'espace du web, d'une part, mais on était beaucoup dans l'espace public, par exemple, dans des manifs. Contre cette politique du gouvernement, on avait une zone hors-taxe mobile. Et il y avait une voix avec un émetteur radio pirate qui disait « Vous êtes dans une zone hors-taxe. » Ça s'appelait une voix d'aéroport. Vous vous trouvez présentement dans une zone hors-taxe. KGB International tient à vous rappeler que vous êtes dans une zone hors-taxe. Et ça se répétait en boucle. Et c'était autour d'une espèce de structure mobile. Et partout où la diffusion, la radiodiffusion se faisait, c'était une zone symboliquement hors-taxe. Et à la fin, on a un animateur au squat, il y avait un squat à Québec à l'époque, un squat qui avait fait parler de lui pas mal, pour qu'il s'ouvre une radio pirate. Donc, on a terminé l'action comme ça. On avait toute une série d'actions qui impliquaient les citoyens. Donc, là, je parle vraiment d'un terrain, de ce qui s'est passé. J'ai jamais analysé, parce que ça rejoint peut-être votre question, j'ai pas analysé, ça s'est passé il y a longtemps, j'ai jamais eu le loisir d'analyser ça sous l'angle académique. Ou, tu sais, on le fait. Puis on analyse beaucoup avant, puis on le fait, puis quand on a terminé, on est tellement fatigué qu'on analyse. On essaie d'analyser, ou on pense à un autre projet, et là on réanalyse d'autres. En fait, on apprend, on analyse ce dont on a besoin dans ce projet pour aller vers d'autres projets. Mais on n'a pas, par exemple, cette perspective théorique du chercheur qui vraiment passe toute son énergie à analyser, ou le revisiter. Mais là, 15 ans plus tard, on peut le revisiter, on peut même le repartir. C'est un projet qui sera encore, encore pertinent, permanent. Il y a toutes sortes de choses à faire comme ce type de projet. Hein. Mais je ne sais pas si ça répond. J'ai répondu par un cas exemplaire qui n'est pas sans défaut. Hein. Parce que ça soulève des questions aussi, quand même. L'impôt, ça sert à quoi? Qui paye de l'impôt? Pourquoi? Quel serait le réel impact sur notre société si les corporations payaient autant d'impôts que les particuliers? Hein? Comment les empêcher d'aller s'installer en Chine ou au Mexique? C'est des grosses questions. Comment on fait? T'sais, Marine Le Pen a des solutions pour ça. On va fermer les frontières, on n'achètera plus d'étrangers, on va produire français. C'est que l'extrême droite peut se réapproprier, ou la nouvelle droite, on est pour ça, peuvent se réapproprier des concepts que nous, on utilise. Alors, comment on fait pour ne pas se faire instrumentaliser par les gens qu'on considère comme étant opposés à nos idées et à nos pratiques? Et ça, c'est des questions importantes. Surtout avec cette espèce d'émergence d'une droite qui récupère les idées de la gauche, qui cite Proudhon, même Sarkozy qui cite Debord. C'est incroyable.
C'est la limite de l'ironie.
Oui. Mais comment, comment on fait dans une situation comme ça pour désamorcer cette instrumentalisation? Oui?
Oui, moi j'ai beaucoup aimé ta présentation, je l'ai trouvé complémentaire à celle de vous autres. Ce que je trouve intéressant, c'est ton effort d'essayer d'établir une taxonomie des transgressions spatiales, géo-transgressions. Et je trouve que c'est très important, tout à fait dans le sens que la question a été posée initialement, parce que ça permet de mettre en évidence et de tester les frontières de la violence symbolique et de la violence tout court dans nos sociétés. Et j'avais tout à fait passé une citation de Cocteau qui disait « Le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. » Donc, c'est une façon, ça, je trouve ça intéressant là-dedans. Puis, c'est un peu, ça relève un peu de la passade des Moreaux, là, on faisait de l'analyse institutionnelle. Ils ont fait ça à l'UQAM, ici, dans les années 70, au moment de la fondation. Ils ont fait une grosse analyse institutionnelle. Hein, puis là, c'était dans l'optique de Bourdieu, etc. Puis, c'était super intéressant. Mais ça a été oublié, comme on dit. Comme notre devise le dit, ici, on se souvient de tout, sauf... Et moi, je trouve que c'est extrêmement pertinent dans la mesure où on peut vérifier des exemples, parce que je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ça pourrait être trop long. C'est l'exemple de publicité sauvage à Montréal. Okay? Publicité sauvage a commencé avec Baudouin Ward, qui était lui, un artiste transgressif. Okay? Puis, il voulait coller des affiches sauvagement, parce que c'était interdit. Le maire Drapeau avait interdit de coller des affiches, c'est encore interdit. Vous le rappelez, c'est encore interdit pour les gens des mouvements sociaux de coller des affiches. Tu te fais arrêter par la police. Alors que la ville est tapissée d'images commerciales, y compris le métro, les descentes d'escaliers, les rampes, et tout et tout. Ça, là, ça nous amène à une réflexion sur l'espace public. Il y a eu un cycle très important ici au Grécis, l'année passée, l'autre année avant, même ça avait commencé il y a 2 ans, une réflexion en profondeur et multidimensionnelle et plurielle, parce que je disais à Omar tout à l'heure que sa contribution dans son prisme postcolonial de réflexion sur l'espace public, c'était, j'avais beaucoup apprécié. De la même manière que les femmes vont essayer de reconstruire des espaces de liberté dans un monde qui n'est pas accueillant pour... Bon, OK. Alors, ça, je trouve ça super intéressant, mais j'en viens aussi en même temps. Puis, il y a beaucoup d'exemples, on n'est pas plié. Reclaim the Street. Et je dirais même Yves Robillard, qui a fait une réflexion post-situationniste. Hein. Il a dit, pourquoi faire de l'art un monde exceptionnalisé alors que dans des sociétés, le concept d'art n'existe pas. Il s'agit de faire tout ce que l'on fait avec art. Au Bali, à Bali, c'est ça?
C'est ça rejoint.
Bon. Alors, il y a une réflexion à la fois sur l'espace public, parce que c'est au cœur de cette bête-là, tu sais. Moi, j'ai fait une présentation sur l'espace public vu à travers le courant chaud de l'école de Francfort, et notamment Oscar Neck. Il parle des espaces publics oppositionnels. Je pense qu'il y a là un matière très intéressant. Puis, en faisant mes lectures pour parler de ça, j'ai vu des choses très intéressantes sur la bataille pour s'approprier l'espace public, oui. Le définir. Il y a des choses très intéressantes, je pourrais te donner.
Oui, c'est
bon. Bon, alors, donc je reviens un peu à un questionnement sur l'art, l'anti-art, le non-art, et l'art de vivre, ou l'art appliqué à la vie quotidienne, donc, parce que les situationnistes sont allés plus loin que les dadaïstes. Ils ont liquidé la notion d'art comme étant une notion séparée. Le mot séparation chez les situationnistes, d'abord.
Oui.
Donc, il y a toute la réflexion là-dessus, sur l'espace public. Je trouve que c'est un ancrage. Moi, si mettons, tu as un étudiant qui s'intéresse à ces problématiques-là, tu vas dire, fouille ces textes-là. Tu sais, je veux dire, essaye de te situer par rapport à ça. Puis, par rapport à autant la question d'art pose la question de l'anti-art du non-art, autant la question de la communication pose aussi dialectiquement la question de l'incommunication dans nos sociétés. L'absence de pluralité de point de vue, c'est, à mon avis, non, c'est très évident au Québec, qu'il y a une absence totale de pluralité de point de vue dans nos médias, et, à mon avis, toujours, c'est à débattre. Les journalistes et les médias tels qu'ils se sont structurés sont les principaux responsables de cette absence de pluralisme. Donc, ça mène à des réflexions sur à la fois l'art et le non-art, mais la communication et l'incommunication. Je pense que, moi, je suis tout à fait dans le sens de la question que Daniel a posée, là. Comment on peut resituer ces pratiques-là qui sont super intéressantes et importantes comme analyseurs des niveaux de censure, de violence symbolique et de violence tout court, dans la structuration des espaces publics, dans la configuration des mobiliers urbains. Les Neupapiers ont testé ces choses-là. Là. Ils avaient mis des pics pour pas que les itinérants se couchent sur les bancs. La ville de Paris.
Oui.
Alors, ça, ce sont des analyseurs essentiels pour révéler des choses.
Oui.
L'artiste, en ce sens-là, est un révélateur.
Oui.
De ses marges, de ses lois. Et de la même manière, les gens qui travaillent en communication et qui ont une perspective dialectique, pas seulement la domination, mais la résistance au sens de Gramsci, vont devoir autant réfléchir sur la communication que sur l'incommunication.
Oui. Et sur l'incommunicable.
Bien, l'incommunication dans nos sociétés, si on veut, l'interdiction de parler.
Oui.
Ou le refoulement aux marges
des
artistes, des militants, des activistes, des femmes, des transgenres, des enfants.
Oui. En fait, je suis d'accord. Je partage pas mal de tes idées. Je vais rebondir sur publicité sauvage parce que, vu mon 4 heures de sommeil de l'année passée, plutôt aujourd'hui, je t'ai dit, tu t'intéresses à l'affichage, tu vois, alors que tu t'intéresses à l'affiche. Mais il n'y a pas d'affichage sans affiche. Donc, l'affiche n'est pas une affiche si elle n'est pas affichée. Donc, c'est pas l'affichage. Et Baudouin Barthe, qui d'ailleurs, les trucs à l'extérieur du cadre, ça c'est publicité sauvage. Quand il a commencé, je connais bien aussi, je travaille avec lui, l'idée c'était de promouvoir des événements culturels qui étaient passés sous silence par les grands médias, exactement, en utilisant l'affichage. Et il s'est tapé des contraventions. Mais ce qui est arrivé, c'est ce que Kenneth Goldsmith, justement, que je mentionnais plus tôt, a dit: when you do something wrong long time enough, or long enough, it starts to be right.
C'est ça que Trump pense.
C'est ça que Trump pense. C'est Trump pense. Mais je ne juge pas ça dans la tandis que. Ça dépend, je pense, ce qu'on fait. Ça dépend de la nature de l'action. C'est une très, très bonne réflexion. Parce que ça dépend ce qu'on fait. Mais en fait, il n'y a pas tout à fait tort en plus parce que le fascisme fonctionne comme ça. La normalité devient quelque chose de monstrueux, plus personne ne s'en rend compte. Hein? Donc, parce qu'on sépare les. On sépare cette machine, ce monstre, en petits morceaux, et chacun fait un petit morceau, donc n'a pas conscience de contribuer à l'ensemble. Et Baudouin, ce qui est arrivé, c'est que maintenant, il a le droit, c'est le seul qui a le droit d'afficher affichage sauvage. Après avoir payé aussi cher à la ville a peut-être dit, finalement, on va l'autoriser à le faire en échange. Au lieu d'avoir toutes ces contraventions-là, on va faire une entente avec eux et on va les laisser faire. Mais ce sont les seuls. Alors, il s'est fait un peu cohabiter dans un sens. Mais il y a eu un petit gars, tu sais, dans ta vie, on change. Tu passes de punk des foufounes à vivre sur un chèque à 500 places par mois à papa, il faut nourrir ton enfant. Tu repenses à ton affaire quand la vie t'a fait. Ça change aussi. C'est la fameuse régulation informelle qu'on voit en criminologie. Les gens qui ont des activités transgressives ou criminelles, à un certain moment où ils sont mariés avec des enfants, ils se casent. Ils sont plus sages.
Jusqu'à ta gueule, la première
oui, c'est ça.
Mais j'ajouterais à ce que tu
viens de dire. Jean-Pierre.
Très court, Jean-Pierre.
Non, parce que je pense que c'est le dernier séminaire que j'anime avant le temps.
C'est bien. Non, mais je vais
le dire. Est-ce que quelqu'un d'autre a encore une question ou un commentaire? C'est le moment ou jamais. Hein.
Oui,
maintenant que Jean-Pierre...
Si vous avez des suggestions, moi je pense, là, c'est rendu ma thèse, ça va pas mal sur ce concept-là de la géotransgression, alors j'accueille...
Ah, alors je vais peut-être dire un mot.
J'accueille toujours des commentaires.
Je vais peut-être dire un mot quand même. Enfin, d'une part, c'était tout à fait, je redis, hein, c'était, vos deux interventions étaient passionnantes. Je vais peut-être dire un mot sur un auteur, en fait, qui, c'est assez... c'est une coïncidence. Hein. C'est la personne, quand j'ai quitté l'Université d'Ottawa, quand j'étais prof à Ottawa, quand j'ai quitté l'Université d'Ottawa, c'est lui qui a pris mon poste. Voilà. Il s'appelle Patrick McCurley. Et alors, c'est un collègue qui est très, très intéressant parce que lui, il s'est intéressé à sur quoi je travaillais, d'ailleurs, dans le cadre de ma thèse, mais sur les relations entre mobilisation sociale et technologie de communication. Mais en intégrant la dimension justement corporelle, parce que bon, il a travaillé autour de, avec une perspective historique, il s'est beaucoup intéressé à tout ce qui est à travers l'histoire, comment les mouvements sociaux, quelle est la place des places dans les mobilisations sociales. Alors évidemment, la dernière à laquelle il s'est intéressé à l'époque où il travaillait là-dessus, c'était la place Tahrir, hein, au Caire. Mais il a vu dans l'histoire comment ça se passait, et en effet. Lui, y compris à l'ère numérique, on va dire, des mouvements sociaux sur le web, en fait, il travaille, donc il s'intéresse à l'articulation avec, justement, l'activisme sur Internet, et puis l'activisme, justement, l'importance du corps dans la mobilisation, les relations aussi entre, on n'a pas employé l'expression, mais entre ce qui est légal et ce qui est légitime, et les différences entre ce qu'on peut estimer comme étant légal et comme étant légitime. Voilà, je ne veux pas en dire plus, mais c'est des choses qui me passionnent par ailleurs. Et puis, exactement comme Jean-Pierre, là, ta présentation, je me suis dit, waouh, mais ça me fait tout à fait penser à tous les travaux aussi sur l'espace public. Mais l'espace public, même bien avant Habermas, tel qu'il était mobilisé dans l'espace, au Moyen-Âge, par exemple, oui, en Europe, avec les théâtres qui étaient participatifs, installés dans la rue, tout ça. Oui. Il y a plein de choses passionnantes.
La présentation de l'arbre de mai, l'arbre de la liberté, la Révolution française, il plantait un arbre sur la place publique. Mm-hmm. Et il dansait à l'entour.
Juste une petite remarque que je vous laisse, mais avec M. Paquet aussi a parlé de ça. Il y a la question, il parle du corps, le corps de l'être humain, mais il y a toute la question de l'agencéité, c'est-à-dire quelles sont les limites qui en font bouger d'autres. Et le rôle de l'humain, le statut de l'humain comme agent de changement par rapport à d'autres catégories, là, une question ontologique, mais d'autres catégories qui en amènent une autre. Nous sommes face à des objets techniques. On a parlé de Simon Dor, du droit d'existence des machines, mais quelle est la place? Partons du corps, il faudra revenir sur la question de l'agencie. Parce que je crois que c'est une question très importante. Il faut le rendre.
Bon, ben merci encore à toutes et à tous. Hein, et puis, bonne fin de semaine. Merci encore à vous.